Chères auditrices, chers auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute et heureux de partager ces moments avec vous. Comptant toujours sur la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, nous poursuivons aujourd'hui l'étude commencée au mois de janvier concernant l'Église de Jésus-Christ. Rappelons que nous nous retrouvons, si Dieu le veut, une fois par mois, le troisième jeudi à 10h. Le mois passé, nous avons examiné les services dans et de l'Église. Ce jour, notre étude porte sur les maladies qui affectent l'Église. Si les divers services contribuent à la fortifier, malheureusement, hélas, les maladies qui se développent en son sein contribuent à l'affaiblir. Rappelons que l'Église est composée d'hommes et de femmes avec toutes les faiblesses inhérentes à la nature humaine. L'Écriture, tel un miroir, nous en donne un reflet fidèle qui peut éclairer notre cœur. Ainsi, nous ne serons ni surpris ni déçus, mais nous pourrons prier efficacement, après diagnostic du problème, qu'il soit dans notre attitude ou celle d'autrui. Tel le développement de notre corps, mais aussi de notre âme et de notre esprit au cours de notre vie, la vie chrétienne normale se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, la rencontre avec le Sauveur, soit le Christ crucifié de l'Évangile, ce qui produit foi et repentance. C'est la nouvelle naissance. On devient enfant de Dieu. C'est le fait de Dieu. On reçoit de lui une vie nouvelle, spirituelle. Puis, la croissance qui va de l'état de nouveau-né à l'état d'homme fait, en passant par l'enfance et l'adolescence. Je cite Éphésiens chapitre 4, versets 15 et 16. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. Cette croissance sera, hélas, affectée par les maladies inhérentes à chaque phase. C'est l'œuvre de l'ennemi. Elles sont des pièges que ce diagnostic se propose de recenser pour les dénoncer et les éviter, tels des écueils dans la communion fraternelle. Jude, verset 12. Grand A, section maternelle ou enfantillage et attitude charnelle. Cela traduit l'absence de développement de la vie spirituelle après des années de conversion. Paul écrit ceci aux Corinthiens. Je cite 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. C'est du lait que je vous ai fait boire, non de la nourriture solide. Vous ne l'auriez pas supporté, mais vous ne la supporteriez pas davantage aujourd'hui, car vous êtes encore charnel, puisqu'il y a parmi vous jalousie et querelle. N'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez-vous pas de façon toute humaine? Paul les qualifie d'hommes charnels, car ils sont restés des petits enfants en Christ, de sorte que leur conduite est celle de la nature humaine, qui produit jalousie et querelle. Dans ce répertoire, on relève, petit a, l'esprit de clan qui génère des disputes. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4. Quand l'un déclare « moi », j'appartiens à Paul, l'autre « moi » à Apollos, n'agissez-vous pas de manière toute humaine? Quel remède Paul préconise-t-il? Réponse au verset 10. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Petit b, on relève ensuite la recherche d'une vaine gloire, c'est-à-dire se mettre en avant. Cela génère la jalousie, l'envie. Tout en soulignant le problème, Paul en indique le remède. Je cite Galates, chapitre 5, verset 26, Bible du Semeur. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Petit c, on trouve encore les querelles de mots. 2 Timothée, chapitre 2, verset 14, qu'on évite les disputes de mots. Elles n'édifient pas, mais au contraire, elles ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Les généalogies sont citées comme source de parlotte. 1 Timothée, chapitre 1, verset 4. Des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Paul recommande à Tite, je cite chapitre 3, verset 9, « Évite les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, car ils sont nuisibles et sans valeur. » Petit d, l'enfantillage ou attitude charnelle se manifeste également au travers de l'inconstance, soit le dernier qui parle a raison. C'est le drame des églises de la Galatie qui se sont promptement détournées de l'enseignement reçu, fascinées par l'enseignement de faux docteurs. La lettre résultant de la conférence de Jérusalem, Actes chapitre 15, versets 22 à 29, déclare, je cite, « Quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours. » Pierre dénonce aussi ce danger, je cite 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. « Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Plusieurs les suivront. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Quel est le remède? Nous l'avons dit et répété, contrôler dans les Écritures ce qui nous est annoncé, même quand cela nous est présenté sous forme de révélation venant du ciel, et s'attacher à l'enseignement du Christ et des apôtres. Pour cela donc, être à l'écoute des vrais ministères. Entre parenthèses, Apocalypse chapitre 2, verset 22, « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » Les ministères donnés à l'Église par le Seigneur pour l'édification du corps de Christ. Voir étude précédente. Rappel, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. » Petit e, citons encore le dissentiment, c'est-à-dire la différence de vue, de jugement, qui cause des conflits. Définition du dictionnaire. Évodie et Saint-Tiche sont deux chrétiennes qui ont combattu pour l'Évangile, mais qui éprouvent un dissentiment. Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3. Paul les encourage pour qu'elles ne tombent pas dans le ressentiment. Il y a un cas positif. Barnabas et Paul, deux apôtres. Ils ont eu une divergence de vue concernant Marc, l'auteur de l'Évangile portant son nom. Ils se sont séparés bons amis, c'est-à-dire pas de ressentiment. Actes chapitre 15, verset 39, résultat, il y aura deux tournées missionnaires au lieu d'une. Petit f, un mot sur le ressentiment, soit le souvenir que l'on garde d'offense, de tort, que l'on n'a pas pardonné. Le piège dans le dissentiment, c'est qu'il ne devienne du ressentiment qui se transforme en rancune, soit un ressentiment profond accompagné du désir de se venger. Quel en est le remède? Réponse, l'antidote au ressentiment est le pardon. Je lis Colossiens chapitre 3 verset 13, et si l'on a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ces, entre guillemets, petites choses sont dévastatrices, et hélas, des chamailleries de cours de maternelle ont affaibli bien des églises locales. Galates chapitre 5, verset 15, « Si vous vous mordez, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Le remède, Galates chapitre 5, verset 16 et verset 25, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Avant d'aborder l'étape de l'adolescence, écoutons une page musicale. Un ami m'a dit, il y a plusieurs décennies de cela, je cite, « Avant de me marier, je n'avais pas d'enfants, mais j'avais quatre principes pour les élever. Maintenant, j'ai quatre enfants et plus de principes. » Il traduisait par cette formule que chaque enfant est particulier, avec des réactions spécifiques. De plus, l'adolescence est une période difficile à traverser. On parle souvent de crise d'adolescence. L'adolescence, entre autres attitudes, se distingue par la contestation de toute autorité. À Corinthe, il y avait quelques, entre guillemets, boutonneux. Paul dit, je cite, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 2, « Quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. » Puis du verset 3 au chapitre 12, verset 21, Paul défend son apostolat. Je cite, « J'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. » Chapitre 11, verset 5, chapitre 12, verset 11. Cela vient amplifier ce qui est dit en 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 2 et 3. « Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. » Le danger, en contestant ainsi le ministre, en fait, le ministère de la parole, c'est de rejeter l'autorité de la parole de Dieu, donc Dieu lui-même, comme autrefois le peuple d'Israël, en demandant un roi. Je cite 1 Samuel chapitre 8, verset 7. « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. » Le remède, prendre modèle sur les Thessaloniciens et les Béréens. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, de ceux qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Actes chapitre 17 verset 11, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Un proverbe français déclare, je cite, « Petits enfants, petits soucis. Grands enfants, grands soucis. Les maladies touchant l'Église affecteront aussi ceux qui ont une position d'adulte. » Populairement, on dit « majeurs et vaccinés. Oui, des responsables sont aussi concernés. Petit a. Perdre la bonne conscience. On ne peut perdre que ce que l'on a eu. Exemple, le nommé Hyménée. Je lis 1 Timothée chapitre 1er verset 19 et 20. Quelques-uns l'ont perdu et ils y ont fait naufrage par rapport à la foi. Ici, les questions de la saine doctrine, confère Jude verset 3. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Un chrétien est quelqu'un qui a été éclairé, dont la conscience a été éveillée aux choses spirituelles par l'instruction de la parole de Dieu. Le fait pour lui de bâillonner sa conscience lorsqu'elle le reprend produit des fruits terribles. Il fait naufrage par rapport à la foi et il blasphème, c'est-à-dire prononce des paroles outrageuses pour la vérité de Dieu, car elles sont en opposition avec la saine doctrine. Je cite de Timothée chapitre 2, versets 17 et 18, « qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. » Avec le contexte, versets 15 à 19, on a ici des précisions sur les blasphèmes d'Hyménée. Ce sont des discours vains et profanes. Cela fait s'enfoncer dans l'impiété ceux qui les tiennent. La fausse doctrine ronge comme la gangrène et fait des ravages chez ceux qui l'écoutent. Pour la protection des croyants, elle, la fausse doctrine, est à combattre, à dénoncer fermement. C'est l'avertissement, avec appel à veiller, que Paul donnait au berger, responsable de l'église à Éphèse qu'il avait réunie à Milet. Je lis Actes chapitre 20, versets 17 à 31. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Autre exemple avec le nommé Alexandre. Il est dit à son sujet, je lis 2 Timothée chapitre 4 versets 14 et 15, il s'est fortement opposé à nos paroles. C'est un fruit de la perte de la bonne conscience et du naufrage de la foi. Le remède, 1 Timothée chapitre 1 verset 18, gardez la foi et une bonne conscience. Petit b, les divisions ou le fruit de la préchyte. Attention aux dangers produits par des non-qualifiés. Je lis 1 Timothée chapitre 1 verset 6 et 7. Quelques-uns se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Leur objectif, entraîner les disciples après eux. Leur séduction, faire entendre des choses agréables, soit un évangile édulcoré, où l'on ne reprend pas le pécheur. 2 Timothée chapitre 4, versets 2 à 4. Le remède indiqué par Paul à Tite, je cite, Tite chapitre 3, verset 10, éloigne de toi celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti. Petit c, abus de pouvoir, comportement anormal du dénommé Diotrèphe. Je lis 3e épître de Jean, chapitre 9, versets 9 et 10. Il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Attitude de dictateur, générée par l'orgueil. Il aime à être le premier, comme les pharisiens, Matthieu chapitre 23, versets 6 à 8. Le remède, Marc chapitre 10, verset 44. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Petit d, abandon du combat de la foi. Je lis 2 Timothée chapitre 1, verset 15. Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Trouvait-il Paul et sa rigueur trop dure? Autre exemple avec Démas, dont il est précisé ceci, je lis, 2 Timothée chapitre 4, verset 10, par amour pour le siècle présent. Attrait du matérialisme, besoin de confort. Le remède, aimer, c'est-à-dire attendre l'avènement du Seigneur. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 9, avec la vision de la foi de Moïse. Hébreux chapitre 11, versets 25-26. Certaines maladies affectent les diverses étapes de la croissance. Nous sommes affectés par des carences et des défaillances. Au répertoire, nous avons les troubles de la vision. Jésus a dit, je cite, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » La myopie, soit une vision limitée, je lis, de Pierre, chapitre 1er, versets 5 à 9, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Le myope spirituel a une espérance à court terme. La presbytie, soit ne voir qu'au loin. La vision de proximité est floue. C'est ne s'intéresser qu'aux choses eschatologiques et n'est pas voir les besoins de proximité quotidiens. Quand le docteur de la loi a demandé à Jésus « Qui est mon prochain ?», Jésus a évoqué l'homme agressé sur la route de Jérusalem à Jéricho, soulignant que le sacrificateur et le lévite sont passés outre, tandis que le samaritain a pris soin du blessé. L'astigmatisme, c'est voir d'une manière déformée. Cela va générer des erreurs d'appréciation, des craintes, voire des jugements, au contraire de l'amour qui ne soupçonne pas le mal. La cataracte, la vision se fige, on ne voit plus. C'est le cas de celui qui déteste son frère. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 11, « Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » La dyslexie, c'est inverser et confondre les lettres, les syllabes, les mots, d'où difficulté à identifier et comprendre ce qui est écrit. Pour ceux qui sont sincères, c'est-à-dire de bonne foi, le Saint-Esprit est le meilleur des orthophonistes. Le mirage, il est le fruit d'une illusion d'optique, et l'on se retrouve hors des réalités de Dieu, en marge des vérités spirituelles. Celui qui se borne à écouter la parole, sans la mettre à pratique, s'abuse lui-même par de faux raisonnements. De même, celui qui pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, vit à côté de la réalité. Jacques, chapitre 1er. L'illusion d'optique produit des, entre guillemets, illuminés. C'est une espèce dangereuse. Je cite Ézéchiel, « Ils prophétisent selon leur propre cœur. Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Alors, quel est le remède à ces problèmes de vision ? Réponse, entre guillemets, achetez de Dieu un collier pour oindre les yeux. Apocalypse chapitre 3, verset 18, et marchez dans la lumière donnée par la parole de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 17, et chapitre 2, verset 10. Nous écoutons une nouvelle page musicale.
Je sais pas si tu comprendras ce que je voudrais dire. Je sais pas si tu saisiras ce qu'il y en a de pire. Des fois je me demande vraiment quand ce désert finira. Des fois je me demande vraiment si je suis rien que né pour ça. Est-ce que j'ai mal à leur mandat? Dieu seul pourra vraiment m'en sortir. Mal à leur mandat, c'est rendu que je dois payer pour rire. Non, personne ne se doute ce que je redoute. que j'ai mal à l'âme. Des fois, j'ai peur de parler, je voudrais pas déranger. Je les vois tous ben occupés à essayer d'arriver. C'est quand même surprenant, on vit tous un peu ça. C'est quand même effrayant de pas se connaître plus que ça. Ce que j'ai mal à l'âme en dedans, Dieu seul pourra vraiment m'en sortir. Mal à l'âme en dedans, c'est rendu que je dois payer pour rire. Non, personne ne doute de ce que je redoute. Ce que j'ai mal à l'âme.
Après les troubles de la vision, dans la rubrique carence et défaillance, nous trouvons les déficiences de l'ouïe. Comme les illusions d'optique sont néfastes, une mauvaise oreille ne peut générer un bon résultat. Jésus a donné cet avertissement. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Luc chapitre 8, verset 18. Il ponctuait souvent son enseignement par ces paroles, je cite, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu chapitre 11, verset 15, chapitre 13, verset 9, verset 43, Luc chapitre 14, verset 35. Parmi les déficiences de l'ouïe, nous notons l'oreille chatouilleuse, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 et 4. La sourde oreille. Plusieurs disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Évangile de Jean, chapitre 6, verset 60. Eutychus, acte chapitre 20, verset 9, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Écoutait-il d'une oreille distraite ou simplement était-il fatigué au point de pouvoir rester attentif longtemps ? Le remède à ces problèmes d'audition, avoir la bonne oreille, c'est-à-dire celle du disciple. Je lis Ésaïe chapitre 50, verset 4. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Cela nous amène à une oreille exercée, celle qui retient ce qui est bon. Lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Celui qui exerce le don de prophétie, qui prophétise, le fait imparfaitement. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9 à 12. C'est la marque du canal humain. Voilà pourquoi, après avoir entendu les prophéties, chacun est invité à, entre guillemets, juger. 1 Corinthiens 14, 29, c'est-à-dire examiner, c'est-à-dire faire le tri pour retenir, c'est-à-dire ne garder que le bon de la pensée exprimée. Certains abus de la prophétie ont amené les Thessaloniciens à ne plus en faire cas. Paul dit mépriser. C'est pourquoi il leur laisse, et à nous aussi, les exhortations suivantes, je cite, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Abstenez-vous de toute espèce de mal. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21. Parmi les défaillances qui se manifestent au sein de l'Église locale, ou sont susceptibles de se manifester, car l'Écriture les mentionne pour que l'on puisse les prévenir, nous trouvons mention du désordre. Je lis Jacques chapitre 3, verset 16. Car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre est toute espèce de mal. Autre mention, 2 Timothée chapitre 3, versets 6 à 15. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là, et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ, à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Ici, le désordre, c'est manger le pain des autres, soit vivre au crochet des autres. Et n'en déplaise à certains, être au chômage ne peut être considéré comme une bénédiction. Le Seigneur nous incite à travailler et veut aider ceux qui se confient en lui dans leur recherche d'emploi. Paul a écrit « Nous encourageons à travailler pour manger. Certains, tels des cigales, se fondent sur, entre guillemets, le temps communautaire de Jérusalem, Actes chapitre 2, versets 44 et 46, et ne comprennent pas que ce fut seulement pour un temps. » Et nouvelle mention du désordre, dans le cadre des assemblées de l'Église, la manifestation de l'Esprit doit être donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Pour atteindre ce but, l'exercice des dons spirituels est cadré. Je lis 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26 à 33. Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue ? Que deux ou trois, au plus, parlent, chacun à son tour. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Cela souligne la responsabilité du prophète quant à son intervention, choix du moment favorable et ne pas faire surnombre. Tout prophète, je cite, est maître de l'esprit prophétique qui l'anime, et de ce fait, a donc le pouvoir de commander à son inspiration et de la garder sous contrôle. Citation de Parole Vivante. Voilà pourquoi l'enseignement concernant les dons spirituels, chapitres 12, 13 et 14 de l'Épître 1 aux Corinthiens, se termine par cette parole. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14, 40. L'Esprit de Dieu ne crée jamais de désordre, étant toujours dans le respect de ce que lui-même a établi. Parlons maintenant de la paille et de la poutre, ou les jugements malvenus, c'est-à-dire qui n'ont pas lieu d'être. Je lis Matthieu chapitre 7, verset 1 jusqu'à 5. Ne jugez point. Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre ?» Certains bien-pensants sont toujours prompts à voir ce qui ne va pas chez autrui. Jésus les qualifie d'hypocrites. La nature de l'homme le pousse, inconsciemment, est-ce inconsciemment, à être exigeant avec autrui, mais tolérant avec lui-même. Le remède « Ne jugez point », car on sera traité de la même manière. De plus, on n'a pas tous les éléments pour apprécier une situation. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Ce que l'on voit est seulement ce que l'on perçoit de ce qui est apparent. Les apparences ne sont pas trompeuses. Elles sont insuffisantes. Voilà pourquoi elles induisent en erreur. Et la langue fait des ravages quand on en fait un usage venimeux. Je cite Jacques chapitre 3, versets 5 à 9. « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Beaucoup de dégâts sont dus au mauvais usage de la langue. Et Jacques de préciser au chapitre 4, versets 11 et 12, « Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge un frère, parle mal de la loi et juge la loi. Mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain ?» Remède, tenir sa langue en bride, Jacques chapitre 1er, verset 26. Et de plus, faire note la prière du psalmiste, psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Et comme les fils de Corée dirent, sous forme de résolution, mon œuvre est pour le roi, que la langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Attention à l'oisiveté. Alors qu'il y a tant de services à remplir au sein de l'Église, certains restent sans rien faire. Danger. Car il est faux de dire qu'en ne faisant rien, on ne risque pas de mal faire. Je cite Jacques chapitre 4, verset 17. « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Paul cite les jeunes veuves comme étant des pipelettes. 1 Timothée chapitre 5, verset 13. « Étant oisives, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. » L'oisiveté a été fatale à David, 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 5. David envoya Joab, mais David resta à Jérusalem. Il s'ensuivit un engrenage meurtrier et dévastateur. Attention au sommeil spirituel. Proverbe 6, versets 10 à 11. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Réparateur dans les temps de repos, sieste, la nuit, le sommeil, l'assoupissement peut s'avérer dramatique quand il nous surprend, quand il survient lorsque nous circulons en voiture. Signalons quelques clignotants annonciateurs. Petit A, la paresse. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 9. Paresseux, jusque à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Il y a tant à faire dans l'église. Petit B, la tristesse. Luc chapitre 22, verset 45. Et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. À Gethsémané, la tristesse avait gagné les disciples, car ils n'avaient pas encore compris le sens des heures qu'ils vivaient. Petit C, la légèreté. Samson a joué avec le péché. Delila l'avait endormi sur ses genoux. Il pensait à tort, Juges chapitre 16, verset 20, « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Le remède, Matthieu chapitre 6, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » On ne peut ignorer deux fléaux terriblement dévastateurs, tant sur le plan individuel que collectif, l'orgueil et l'incrédulité. Et sans commentaire, je cite Jacques chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux ». Puis, Proverbe chapitre 16, verset 18, « L'orgueil précède la chute ». Et encore, Hébreux chapitre 3, verset 19, « Ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité ». Conclusion. L'Église est composée de pécheurs sauvés, hommes et femmes imparfaits, au nombre desquels nous sommes. Ne soyons pas surpris lorsque ces choses se produisent en son sein, comme une sorte de fournaise pour nous éprouver. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 16. Reconnaissons que nous-mêmes avons aussi été atteints. Parfois même, nous avons été contagieux et source de souffrance pour les autres. Pardon et compassion sont les deux mamelles de la communion fraternelle. Veillons à ne pas être pour les frères une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Romains chapitre 14, verset 21. La bonne santé spirituelle passe par une communion toujours plus grande avec le Seigneur. Je lis Jean chapitre 15, verset 4 et 5. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Si nous sommes affectés de quelque sorte que ce soit par ces maladies, demandons le secours de celui qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, verset 3, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Amen.